אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 482 את המאמר אהבת השם ואהבת הבריות. אנחנו נמצאים בטור ב' בכותרת ואהבת לרעך כמוך.
On est arrivé au sous-titre Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous avions étudié plus en profondeur et comprendre le sens du verset Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le sens littéral est d'aimer votre ami de la même manière dont vous vous aimez. Cependant, nous constatons que le collectif n'arrive pas du tout à le suivre. S'il avait été écrit « Aime ton prochain autant qu'il t'aime », il y aurait également peu de gens qui pourraient totalement l'observer, mais cela serait acceptable. Mais aimer son ami autant qu'il s'aime me semble impossible. Même s'il n'y avait qu'une seule personne au monde en plus de moi, ce serait encore impossible. Et encore moins quand le monde est peuplé de gens. De plus, si l'homme aimait tout le monde autant qu'il s'aime, il manquerait de temps pour lui-même, car il est évident qu'il doit satisfaire ses propres besoins pour ne manquer de rien, et avec beaucoup d'énergie, car il s'aime. Ce n'est pas le cas des besoins de la société. L'homme n'a pas de grande motivation pour stimuler son désir de travailler pour elle. Même s'il avait un désir, peut-il quand même observer cette déclaration au pied de la lettre? En aurait-il la force? Dans la négative, comment la Torah peut-elle nous obliger à faire quelque chose qui n'est pas réalisable? Nous ne devons pas considérer que cette déclaration soit exagérée. Parce que nous sommes prévenus par l'adage, tu n'y ajouteras rien ni n'en retranchera rien. Les commentateurs ont accepté d'interpréter le texte littéralement. De plus, ils ont dit qu'il faut satisfaire les besoins de son ami, même s'il est lui-même dans le besoin. Même dans ce cas, il a l'obligation de satisfaire les besoins de son ami et quant à lui, rester dans le besoin. Les Tosfot interprètent que quiconque achète un esclave hébreu s'achète un maître. Et les Tosfot interprètent au nom du Talmud de Jérusalem, si l'homme n'a qu'un seul oreiller, s'il est couché dessus, il ne respecte pas car il est heureux avec toi. Et s'il ne se couche pas dessus et ne le donne pas à son esclave, c'est de la méchanceté. Il s'avère qu'il doit le donner à son esclave, c'est-à-dire à son maître. Je dois relire, Rav. Lire une autre fois. Lire une autre fois, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous devrions étudier plus en profondeur et comprendre le sens du verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le sens littéral est d'aimer votre ami de la même manière dont vous vous aimez. Cependant, nous constatons que le collectif n'arrive pas du tout à le suivre. S'il avait été écrit « Aimer ton prochain autant qu'il t'aime », il y aurait également peu de gens qui pourraient totalement l'observer. Mais cela serait acceptable. Mais aimer son ami autant qu'il s'aime me semble impossible. Même s'il n'y avait qu'une seule personne au monde en plus de moi, ce serait encore impossible. Et encore moins quand le monde est peuplé de gens. De plus, si l'homme aimait tout le monde autant qu'il s'aime, il manquerait de temps pour lui-même.
Car
il est évident qu'il doit satisfaire ses propres besoins pour ne manquer de rien et avec beaucoup d'énergie, car il s'aime. Ce n'est pas le cas des besoins de la société, car l'homme n'a pas de grande motivation pour stimuler son désir de travailler pour elle. Même s'il avait un désir, peut-il quand même observer ses déclarations au plaid de la lettre? En aurait-il les forces? Dans la négative, comment la Torah peut-elle nous obliger à faire quelque chose qui n'est pas réalisable? Nous ne devrions pas considérer que cette déclaration soit exagérée, parce que nous sommes prévenus par l'adage « Tu n'y ajouteras rien, ni n'en retrancheras rien ». Tous les commentateurs ont accepté d'interpréter le texte littéralement. De plus, ils ont dit qu'il faut satisfaire les besoins de son ami, même s'il est lui-même dans le besoin. Même dans ce cas, il a obligation de satisfaire les besoins de son ami. Et quant à lui, rester dans le besoin. Les Tosfot interprètent que quiconque achète un esclave hébreu, s'achète un maître. Et les Tosfot interprètent au nom du Talmud de Jérusalem que si l'homme n'a qu'un seul oreiller, s'il est couché dessus, il ne respecte pas car il est heureux avec toi. Et s'il ne se couche pas dessus, il ne le donne pas à son esclave. C'est de la méchanceté. Il s'avère qu'il doit le donner à son esclave, c'est-à-dire à son maître. Pour le moment, continue à lire. Oui, continue. Un commandement, une mitzvah. Cela soulève plusieurs questions. D'après ce qui précède, nous commettons tous des infractions contre la Torah. De plus, nous ne respectons même pas l'essence de la Torah, parce que nous nous observons les détails et non la règle. Il est écrit, quand vous observez la volonté du Créateur, les pauvres sont dans les autres et non en vous. En effet, comment est-il possible qu'il y ait des pauvres quand chacun respecte la règle, le désir du Créateur et aime ses prochains comme lui-même? La question de l'esclave hébreu apportée par le Talmud de Jérusalem mérite une étude plus approfondie. Le sens du texte et que l'on doit aimer son esclave comme soi-même, même un prosélyte qui n'est pas hébreu. Il n'y a pas d'exception, parce que la règle pour le converti est la même règle que pour l'hébreu, parce que vous aurez une loi et un jugement pour vous et le converti qui habite avec vous. Le mot converti, guerre, signifie aussi prosélyte partiel, c'est-à-dire il n'accepte pas la Torah, mais se sépare de l'idolâtrie. Il est écrit à propos d'une telle personne, tu peux la donner au prosélyte qui est dans tes portes. Et c'est le sens d'une mitzvah dont parle le Tana, lorsqu'il dit « Exécuter une mitzvah, c'est juger et le monde entier favorablement. » Il est très difficile de comprendre ce que le monde entier a à voir là-dedans. Et nous ne devrions pas justifier du fait qu'il est à moitié coupable et à moitié innocent, et que le monde entier est moitié coupable et moitié innocent. Nous disons alors qu'il manque l'essentiel dans le livre, qui plus est le monde entier est rempli d'étrangers, de tyrans. Alors comment peut-il voir qu'ils sont moitié coupables et moitié innocents? Quand il s'agit de lui, il peut se voir moitié coupable, moitié innocent, mais pas le monde entier.
על כל פנים היה צריך לומר כל ישראל כולו.
De plus, le texte aurait dû dire tout Israël. Mais pourquoi dit-il le monde entier, que le Tana a ajouté? Sommes-nous les garants des nations du monde? Est-ce qu'on les ajoute à nos bonnes actions? Nous devons comprendre que nos sages n'ont parlé que de la partie pratique de la Torah, qui amène le monde et la Torah au but désiré. Par conséquent, quand ils disent un commandement, ils font certainement référence à un commandement pratique. C'est bien ce que dit Hillel, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est par ce seul commandement que l'on est récompensé du but réel, qui est l'adhésion au Créateur. Ainsi, vous trouvez qu'avec ce commandement, l'homme est récompensé d'observer tout le but et le dessein. Et maintenant, il n'y a plus de difficulté pour ce qui est des commandements entre l'homme et le Créateur, parce que leur application a pour but de purifier le corps, dont l'ultime objectif est d'aimer votre ami comme vous-même. La phase suivante est immédiate et l'adhésion. Et en cela, il y a le général et le particulier. Nous allons du particulier au général, parce que le général mène au but ultime. Ainsi, il n'est certainement pas important de savoir de quel côté commencer, du particulier ou du général. L'essentiel est de commencer et de ne pas rester sur place jusqu'à ce que nous atteignions notre but.
Ken. Roim anachnu mikan.
De là, nous voyons que ce commandement, aime ton prochain comme toi-même, est tellement important. C'est uniquement si tu la respectes, tu fais ce que le Créateur attend de toi. Finalement, l'amour des amis devrait être autant que l'amour du Créateur, et pas moins.
Mm.
Il continue l'explication. Il nous reste encore un sujet à examiner. Si tout le but de la Torah, de toute la création, n'est que d'élever l'humanité civile pour devenir digne de cette merveilleuse sublimité et pour adhérer à lui. Il aurait dû nous créer avec cette sublimité au lieu de nous faire travailler dur en faisant des efforts dans la création et dans la Torah et les commandements. Pourquoi pas immédiatement nous créer par ce travail avec le Créateur directement? Non, il continue. Je continue à lire? Ah, Michael, recommence. Adhérez à lui. Il nous reste encore un sujet à examiner. Si tout le but de la Torah et de toute la création n'est que d'élever l'humanité civile pour devenir digne de cette merveilleuse sublimité et pour adhérer à lui, il aurait dû nous créer avec cette sublimité au lieu de nous faire travailler dur en faisant des efforts dans la création, dans la Torah et les mitzvot. Nous pourrions expliquer cela par les mots de nos sages. Celui qui mange ce qui ne lui appartient pas a peur de le regarder en face. Cela signifie que quiconque se nourrit du travail d'autrui a peur, a honte de regarder sa propre forme, car sa forme est inhumaine.
Parce
qu'aucun manque ne sort de sa perfection, il nous a donc préparé ce travail afin que nous puissions avoir du plaisir en travaillant de nos propres mains. C'est pourquoi il a créé la création d'après cette bassesse. Le travail dans la Torah et les commandements nous élève de la bassesse de la création. Et par ce travail, nous atteignons notre sublimité de nous-mêmes. Alors, nous ne ressentons pas la joie et la bonté qui nous viennent de sa main si généreuse comme un cadeau, mais comme nous appartenant. Cependant, nous devons encore comprendre la source de la bassesse que nous ressentons en recevant un cadeau. Nous allons le faire à l'aide de la loi bien connue des spécialistes en sciences naturelles, stipulant que la nature et la loi de chaque branche sont comme sa racine. Tout ce qui s'applique à la racine, sa branche l'aimera, le convoitera et s'en servira. De même, toute chose qui n'est pas dans la racine, la branche s'en éloignera, ne pourra pas la tolérer et lui nuira. Et parce que notre racine est le Créateur et qu'il ne reçoit pas mais donne, nous ressentons de la peine et bassesse à chaque fois que nous recevons d'autrui. Maintenant, nous avons clarifié le but d'adhérer à lui. La sublimité de cette adhésion n'est que l'équivalence de la branche à sa racine. Et toute la question de la bassesse n'est que l'éloignement de sa racine. En d'autres termes, chaque créature dont la voix est corrigée en vue de donner plus à autrui devient plus sublime et peut adhérer davantage à lui. Cependant, chaque humain dont le chemin est la réception et l'amour de soi est encore plus avili et plus éloigné du Créateur. Pour remédier à cela, la Torah, les commandements nous ont été préparés. Au début, nous devons observer le lishma, c'est-à-dire afin de recevoir une récompense. Je crois qu'il y a une erreur dans le texte. C'est le cas pendant la période de Katnout. Pour nous éduquer, quand une personne grandit, on lui apprend à s'engager dans la Torah et les commandements, l'Ishma, ce qui signifie apporter contentement à son Créateur et non pas amour à des fins personnelles. Maintenant, nous pouvons comprendre les paroles de nos sages. Qu'importe au Créateur que l'animal soit abattu en lui tranchant la gorge ou en lui tranchant la nuque, car les commandements nous ont été donnés que pour purifier les créatures. Mais nous ne savons toujours pas ce qu'est cette purification. En ce qui concerne ce qui précède, on sait que un ânon sauvage engendrera un homme. Et nous sommes complètement immergés dans la saleté et dans la bassesse de la réception pour soi et dans l'amour de soi, sans aucune étincelle d'amour ou de don envers les autres. Dans cet état, il se situe au point le plus éloigné du but, de sa racine.
מין השורש יתברך ויתעלה. וכאשר גדל,
quand la personne grandit et est éduquée avec la Torah et les commandements, définie seulement dans l'intention d'apporter du contentement à son Créateur et pas du tout à des fins personnelles, elle arrive au degré du don sans réserve à son prochain par le remède naturel de l'étude de la Torah et des commandements en son nom, que le donneur de la Torah connaît. Comme nos sages l'ont dit, j'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah comme une épice. De cette façon, l'être humain se développe dans les degrés de la sublimité ci-dessus, jusqu'à ce que l'homme perd toute forme d'amour de soi et de réception pour lui-même. Tous ses attributs ne sont que pour donner sans réserve ou de recevoir pour donner. Nos sages ont dit à ce sujet, les commandements n'ont été donnés que pour purifier les individus. Et alors, ils adhèrent à sa racine, comme on dit, et adhérer à lui. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y en a ici. Si on travaille afin d'aimer les amis, parce que c'est un commandement du Créateur. Quelle est la différence entre l'Ishma et le Lishma? Si c'est un commandement du Créateur et de la Torah, c'est tout. On arrive à la fin. Si on travaille afin d'aimer les amis, on veut arriver à l'équivalence de forme, on comprend. Ok, c'est un moyen, c'est qu'il n'y a pas d'autre façon d'y arriver au Créateur. Alors, Quelle est l'importance de l'intention? De toute façon, on fait ce qu'il faut faire. Alors, pourquoi il faut ajouter de l'intention? Mais je te pose la question à toi. Est-ce que faire tout ce que la Torah exige, on le fait afin de recevoir, afin de donner, il y a une différence ou non? Si c'est afin de donner, tu atteins l'équivalence de forme avec le Créateur entièrement. Mais si je n'aime, je ne travaille pas pour aimer les autres, je peux voir. Mais si tu ne commences pas ce travail, tu ne fais rien. Toute la Torah commence par l'amour d'autrui et l'autre moitié est basée sur l'amour d'autrui. C'est très bien. Donc, j'ai commencé avec les amis, l'amour des amis. Mais qu'est-ce que je dois compléter avec mon intention? Je suis déjà sur le chemin. Qu'est-ce que je dois ajouter avec cette intention? Tout ce que tu fais, tu dois le faire avec l'intention d'apporter contentement au Créateur. Et pour mieux comprendre, fais-le avec l'intention d'apporter contentement aux créatures. Donc ça, c'est la première intention. Oui?
Autre?
Encore?
Le
dernier paragraphe. C'est de donner sans réserve ou de recevoir pour donner. Comment imaginer un tel degré? C'est-à-dire, je resterai toujours un désir de recevoir, donc je suis une créature. Si tu le fais afin d'exister, pour donner, ce n'est pas considéré comme recevoir. Parce que tu es comme un appareil, tu as besoin de carburant, de je sais pas, d'huile. C'est l'intention qui change seulement. C'est que l'intention, oui. Eyal? Dans l'article, il dit que l'amour, c'est remplir les besoins de l'ami. Quelle force j'ai pour remplir ce que a besoin l'ami? Qu'est-ce que cette action? Se connecter à l'ami, de ressentir ce qui lui manque et remplir ses manques en utilisant tes manques, ce que tu as reçu de lui. Et toutes les forces, mais ça appartient au Créateur. Alors, qu'est-ce que moi, je n'ai pas de force. Alors, qu'est-ce que ça veut dire remplir le désir de l'ami? Tu demandes au Créateur ce remplissage des forces pour ce que tu as reçu de l'ami et remplir, transmettre aux amis ou à l'ami. Alors, dernière question, l'intention. L'intention, c'est une force, on peut dire ça comme ça. L'intention, elle met en marche la force, oui.
Raf,
tu as très bien expliqué ce qu'est recevoir afin de donner. Mais je ne peux pas recevoir ce qui manque à l'ami d'une façon propre. J'ajoute toujours une partie de moi-même. Comment recevoir vraiment ce que l'ami a besoin? Ça, c'est dans la mesure où tu t'annules. Fais des exercices pour mieux t'annuler. Tu te connectes à l'ami et tu le fais entièrement, complètement. Moscou.
Он здесь пишет, ну, в статье, тут и там, где-то говорит просто про Творца, где-то пишет, что своего Творца, своему корню.
dans l'article, des fois il parle du Créateur, des fois il parle de ta racine, à toi. Qu'est-ce que c'est que ta racine ou ton Créateur? Il y a le Créateur vis-à-vis du monde entier, un Créateur pour le monde entier, qu'il n'y a rien en milieu. Et en plus, il y a mon Créateur, c'est-à-dire qui est responsable de ma naissance, ma croissance, que j'arrive au but de la création, et il prend soin de tout ce processus que je dois traverser en tant qu'individu qui fait partie de la création. C'est appelé mon Créateur, spécifiquement.
Voilà.
Comment
rassembler?
Je ne sais
même pas comment dire ça, mais entre ce Créateur général et le Créateur individuel, je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Réfléchis.
Deux ou trois créateurs, il y a la force supérieure, il n'y a aucun problème.
Alors,
une autre question, comment l'imagination aide à arriver à la foi de la raison? Aucune façon. Alors, on n'utilise pas l'imagination? On peut s'en servir, si ce n'est pas en contradiction avec les règles essentielles.
Non.
Mon ami a aussi une question.
C'est
écrit un commandement. Peu importe si on commence par le général ou par le particulier, mais l'essentiel c'est de commencer et ne pas quitter au milieu, jusqu'à qu'on atteint le but final. Le général, le particulier. En quoi le général et le particulier? Et ça veut dire, quel est le sens de ne pas quitter au milieu? Le général, disons l'humanité, et le général, ça peut être un groupe ou même une personne, c'est tout. Et ça veut dire ne pas arrêter au milieu, ni là ni là, c'est-à-dire... De toute façon, si tu acceptes une chose, tu arriveras à l'autre. Si vous ne réalisez pas de façon pratique ce qu'on dit, vous ne comprendrez rien. Travaillez. Même si vous ne comprenez pas ce qu'on a dit, vous comprendrez tout.
Woman Turkey Six.
W Türk 6.
Selam sevgili dostlar. Dostumu kendimi sevdiğim gibi sevemiyor olmam, dostu kendinden ayrı gördüğüm için mi, yoksa ihtiyaçlarımı benim dışımda kimsenin önemsemeyeceği gerçeği mi? Teşekkürler.
Bonjour cher Rav, les amis. Est-ce que la raison qui m'empêche d'aimer les amis comme moi-même, c'est parce que je la vois séparée de moi-même, ou alors c'est parce que personne ne s'occupe de moi, à part moi. Si on ne prend pas soin de mes propres besoins, à part moi-même, c'est important, mais ça peut être le contraire. Ça dépend comment je travaille. Ça va?
H10.
Quand j'essaye de réaliser, de remplir les besoins d'autrui, mais je n'ai pas encore l'intention de donner la lumière, ne brille pas. Donc je fais des calculs. Qu'est-ce que je dois remplir pour ne pas faire du mal? Comment ne pas faire des erreurs? Et remplir les besoins égoïstes de l'ami. Ne t'inquiète pas, même si ce sont les désirs égoïstes de l'ami, ça va. Pour toi, ça va. Alors, aucun calcul? Essayer de faire ce que je peux? Oui, oui, bien sûr.
Ma'ala, Turki 7.
Turki 7. Est-ce qu'on doit comme, j'ai pas compris, comme quelqu'un qui porte quelque chose et donne à l'ami, je crois, la sensation, on reçoit du Créateur et on donne aux autres. Au début, oui. Mais finalement, non. C'est tout? Bien. Bonne santé, tout le monde. Et après-demain, demain, je serai dans l'avion, donc après-demain. Merci, tout le monde. Bonne santé. Merci beaucoup, Rav.
Des
infos à propos du congrès. Oui, un congrès. On va expliquer ce congrès est au-delà de la raison, mais comment s'organiser, comment se préparer à ce degré. Premièrement, les amis, L'inscription est ouverte le 18-19 mai, deux jours, du matin au soir. On commence à 7h du matin jusqu'à 19h en Israël. Toutes les infos se trouvent sur le site convention Kli One. En Israël, la réunion... Le rassemblement, c'est ici, au centre Rabbi Tikva, mais il y aura aussi des dizaines de rassemblements dans le monde entier. À partir de 18 ans, maintenant, on ne recommande pas aux amis de l'étranger de venir en Israël à cause de la situation, de la sécurité, mais oui, de trouver un congrès proche de votre pays, de vous rassembler quand même. Donc, qu'est-ce qu'on aura? En gros, les deux jours sont partagés en deux blocs identiques. C'est-à-dire, il y a un temps social, un cours, une pause et une seouda. Donc on en a quatre pendant ces deux jours. Samedi, on se réunit à 7h du matin. Il y a un buffet. Et la journée commence à 8h. Et on termine à 19h. Mais comme j'ai dit, vous pouvez trouver tout ça sur le site. L'inscription même, ça c'est important. Donc, on a deux possibilités d'inscription. Pour tout le monde, vous verrez, il y a comme un bouton bleu, ça c'est pour tout le monde. Tous ceux qui participent par la plateforme Arvut et les congrès miroirs, tout le monde doit s'inscrire. Tous ceux qui sont abonnés déjà, donc le congrès est gratuit. Mais il faut s'inscrire quand même. De toute façon, on s'inscrit. Ceux qui n'ont pas encore un abonnement, c'est une opportunité de le faire. Tous ceux qui ont besoin d'aide, on expliquera, vous pouvez contacter El Praver. Mais tout se trouve sur le site du congrès. Maintenant, le congrès physique en Israël. Ça, j'ajoute moi-même, tous les amis d'Afrique, demain, pendant la réunion, on expliquera comment faire. Donc, ne vous inscrivez pas encore aujourd'hui, on expliquera demain comment faire.
עבור הכנס כאן, למי שהולך להגיע לכאן, לפתח תקווה. ושימו לב, ביום רביעי, 15
מרקודי, ל-15, le prix augmente pour ceux qui viennent ici au centre פתח תקווה. Tu veux ajouter quelque chose, Moshe? Je vais ajouter, alors. Je vais ajouter, vis-à-vis du congrès, l'équipe qui travaille, une grande équipe, une très grande équipe. Arié, Asaf, Dror, Noach, Ethan, Omri, bien sûr, qui est responsable, et les femmes, Sigal, Osnat. Je ne peux pas dire tous les noms, mais ce congrès est permet de faire un grand pas au-delà de la raison, et on voudrait que tout le monde, tout le climat mondial participe à cette préparation pendant les ateliers, pendant les cours, le temps social. Donc, on expliquera tout ça, mais on voudrait construire tous ensemble ce cli pour un degré appelé au-delà de la raison. Notre préparation déterminera ce degré. On a encore 2 semaines et on veut, on voudrait que chaque ami qui veut participer, prendre un rôle quelconque, on écrivait à bord Workly. Et chacun aura la possibilité de trouver sa place, d'accord? On en parlera plus tôt, plus pendant la semaine. Et vous avez de quoi attendre. Ok, bon. Ça aussi on verra demain, on a déjà contacté pour le groupe francophone. Congrès mondial. Au-delà de la raison, samedi, dimanche, information, inscription.
En Israël,
il y a, au centre avec Rikva, il y a une soirée de diffusion pour le peuple en Israël. Qu'est-ce que l'indépendance? Donc vous pouvez envoyer cette invitation à vos amis, familles en Israël, jeudi 9
mai 18h30.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a encore? Là, on a une Seouda qui va commencer. À 11h45, préparation en cours. Midi à 1h30, temps social. Une chanson.
Ah, va, clou l'otage.